Radio Okapi.
Tous les enfants, garçons et filles à l'école, le coup d'envoi de la campagne de leur scolarisation a été donné ce jeudi à Bukavu, au sud Kivu. 3 millions d'enfants en âge de scolarisation sont attendus pour cette année. Et puis, les multiples attaques en Ituri ont fait un boom de déplacés dans plusieurs territoires. Plus de 10 000 familles ont fui leur village. La société civile locale alerte sur un risque de crise humanitaire et lance un appel à l'endroit des autorités. Celle-ci appelle à la patience. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Madame Claudine Ndoussi, ministre de l'Emploi et Prévoyance Sociale. Elle est en séjour à Butembo, au Nord Kivu. Elle appelle toutes les entreprises privées à affiler leurs employés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Au sud Kivu, coup d'envoi ce jeudi 7 octobre de la campagne de scolarisation de tous les enfants, garçons et filles. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur de province en présence de plusieurs autorités et des responsables de l'UNICEF, partenaire de la campagne. L'objectif de cette campagne est que 3 millions d'enfants en âge de scolarisation au sud Kivu soient non seulement inscrits dans une école, mais qu'ils aient aussi accès à un enseignement de qualité. Reportage de Cynthia Bachizi Nabizana.
Danse, chant, c'était un lancement en grande pompe. Une distribution symbolique de fournitures scolaires a été également organisée pour marquer le coup. L'UNICEF a recensé cette année 3 millions d'enfants en âge de scolarisation dans toute la province du Sud Kivu. Un grand défi. Emmanuel Chibangu, chargé de l'éducation à l'UNICEF Sud Kivu.
Nous aurons presque 30 jours de la campagne et à la fin, on va évaluer et comparer l'année passée par rapport à cette année, afin de donner les résultats pour voir si on a évolué. Ici, on a amélioré par rapport à ce qui est attendu, le 3 millions d'enfants du Sud Kivu qui doivent avoir accès à l'école.
De l'avis de la ministre provinciale de l'EPST, les parents n'ont plus d'excuses pour ne pas envoyer les enfants à l'école avec la gratuité de l'enseignement de base. Geneviève Mizumbi.
C'est une occasion pour les parents d'amener les enfants à l'école puisqu'il n'y a plus de contraintes. Donc, j'exhorte tous les parents de faire scolariser leurs enfants et surtout que c'est la gratuité totale à l'école primaire.
Le choix de l'école primaire élite n'était pas anodin. C'est de là que vient Elie Roulibabiri, les lauréats de toute la province au TENAFEP avec 98%. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
La même campagne a cette fois-ci été lancée à Kananga au Kasaï central. C'était le ministre provincial de l'éducation qui a procédé à ce lancement. Il faut dire que cette campagne est appuyée par l'UNICEF qui a décidé de mettre à la disposition du gouvernement provincial des fournitures scolaires, construire des salles de classe pour soutenir l'éducation. François Kadima nous en parle.
Selon Benny Krasniki, chef du bureau de l'UNICEF, son organisme et les partenaires s'investissent pour doter les enfants de moyens nécessaires dans le cadre de la scolarisation universelle et la promotion de leur inscription à l'école.
Nous avons déjà construit 300 salles de classe, planifié 570. On a distribué 300 cartons de fournitures scolaires, équipé 4500 tables bancs pour bénéficier 34 200 enfants. Dans le territoire de Dimbelenge, des temps de 72 mètres carrés comme espace temporaire pour permettre la reprise des cours à 2150 enfants.
Le ministre provincial de l'Éducation a souligné la nécessité pour les acteurs éducatifs de s'investir pour la scolarisation des enfants. Tarsis Mouzeke.
Je lance un appel pathétique aux parents, aux enseignants, aux chefs d'établissement scolaire, aux partenaires éducatifs, aux médias et confessions religieuses de s'impliquer dans la scolarisation de tous les enfants sans discrimination tout au long de l'année scolaire.
Notons que pour accompagner la gratuité de l'enseignement cette année scolaire, le gouvernement provincial indique avoir fourni à la province éducationnelle Kasaï central un sans bon pépitre. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
En Ituri, mesdames et messieurs, la situation humanitaire demeure préoccupante et semble même s'être dégradée depuis ces deux dernières semaines dans les territoires d'Irumu, Djougou et Mahagi. Plus de 10 000 familles ont déjà fui leur village après les attaques de groupes armés. La coordination de la société civile de l'Ituri alerte sur un risque de crise humanitaire dans la région. Elle demande aux autorités de l'état de siège de rétablir rapidement la sécurité dans ces zones pour que ces personnes qui manquent de tout puissent rentrer chez elles. De leur côté, les autorités appellent les vulnérables à la patience et à ne pas perdre espoir. Marcel Kizabiamungu.
Ce nouveau mouvement de déplacés est observé depuis plus de 2 semaines lors de la première attaque du centre des commandes au sud de Bounia par des présumés Zadef. Depuis, des familles entières vident progressivement cette localité et ses environs pour prendre la direction de Mambasa, Irumu et Bounia. D'autres mouvements de population sont enregistrés depuis 1 semaine dans la région de Ngongo, Lipri et Mwanga où se déroulent des combats entre les FRDC et la coalition des assaillants des groupes armés FPIC et Codeco. Les populations de ces entités affluent vers la périphérie nord de Bounia, abandonnant tout derrière elles. Jeudi, des milliers d'autres familles ont fui l'attaque de la Codeco dans 3 villages vers Nyoka. La société civile de l'Ituri craint que cette situation ne devienne intenable.
Les déplacés, il faut les rassurer et les vivre aussi la sécurité.
La conseillère du gouverneur militaire de l'Ituri en charge des affaires humanitaires, Jeanne Alacha, indique que les autorités sont en train de se mobiliser avec les partenaires internationaux pour une action concertée.
Les autorités sont en train de se mobiliser et du côté étatique et du côté de nos partenaires pour venir à l'aide.
Pour la société civile de l'Ituri, des enfants en âge scolaire qui sont parmi ces personnes déplacées risquent de rater cette année scolaire si rien n'est fait. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
À Butembo, pendant ce temps, le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO au Grand Nord, Kivu, a rencontré quelques responsables religieux de la place ce jeudi. C'est notamment l'évêque de l'église anglicane et les représentants de la communauté musulmane à Butembo. Ces personnalités ont particulièrement discuté de la pacification de cette région nord de la province du Nord Kivu. Le reportage de Sadiki Aboubakar est rendu ici par Grâce Hamzati.
Abdourahmane Ganda a d'abord rencontré l'évêque anglicane. Après leur discussion, Monseigneur Issé Somo a appelé la population à la patience et à la collaboration pour permettre aux FARDC et à la MONUSCO de venir à bout des rebelles ADEF.
À la population, nous devons être patients, nous devons collaborer pour ne pas travailler en ordre dispersé parce que nous avons tous le même but, arriver à avoir la paix dans notre milieu.
Le même appel à la collaboration a été lancé par les représentants de la communauté musulmane de Butembo qui ont promis d'accompagner la MONUSCO dans la sensibilisation pour la paix en vue de permettre aux soldats de se concentrer sur les combats. Abdullah Youssouf Maya est le secrétaire administratif de la Comico à Butembo.
La communauté c'est une religion de paix. Depuis l'existence de l'islam, nous sommes toujours en train de sensibiliser les musulmans et les non-musulmans sur la culture de la paix. Donc cette relation entre la communauté islamique, les musulmans, les non-musulmans et la MONUSCO, nous allons seulement la renforcer dans le but de sensibiliser toutes les couches de la population, amener la population à comprendre les pièges que ces groupes armés utilisent en vue de recruter la possible population.
Le chef des bureaux intérimaires de la MONUSCO Grand Nord avait rencontré mercredi l'évêque catholique du diocèse de Butembo Beni. Les deux personnalités avaient abordé les mêmes questions. Butembo, Grâce Hamzati, Radio Kapi.
Au sud Kivu, pendant ces temps, la situation de protection des civils à Bijombo, dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira, a été au centre d'une séance de travail entre les acteurs humanitaires et la MONUSCO. 11 acteurs humanitaires représentant 5 ONG internationales ont pris part mardi dernier à cette session de travail sur place à Bijombo pour évaluer la situation sécuritaire dans la région. Fiston Goma.
Les acteurs humanitaires et représentants les ONG AFSI, Caritas, Inter-SOS, People in Need et Médecins du Monde ont partagé de leurs préoccupations, selon laquelle la situation sécuritaire reste volatile dans la région de Bijombo. Les populations civiles, en particulier les déplacés internes, sont vulnérables et vivent dans des conditions difficiles sans réponse humanitaire efficace. Les participants ont en outre abordé la question liée à leur propre sécurité et protection, les procédures d'évacuation médicale ainsi que la fourniture d'un appui de qualité. D'après ces acteurs humanitaires, le déploiement et le repositionnement en cours des troupes de FRDC dans la région est un élément important pouvant contribuer à créer un environnement protecteur pour le retour des personnes déplacées et l'acheminement en toute sécurité de l'aide humanitaire. La MONUSCO de son côté a confirmé sa disponibilité pour un soutien dans le cadre de son mandat Elle a recommandé à ses partenaires de partager des alertes et de toujours informer sur leurs activités dans et autour de Bijombo pour des mesures de sécurité. Toutes les parties ont convenu d'améliorer la collaboration, le partage d'informations et la coordination des activités pour des résultats escomptés. Douvira Fiston Momayabala, Radio Okapi.
On retourne au Nord Kivu. Au moins 920 ménages des sinistrés de l'éruption volcanique du 22 mai dernier sont déjà réinstallés dans les abris provisoires construits sur fonds propres du gouvernement congolais à Kanyarushinya, territoire de Nyiragongo. Ces personnes affirment que leurs conditions de vie se sont plus ou moins améliorées, bien que les besoins demeurent nombreux. Le gestionnaire du site affirme que l'opération se poursuit et que des efforts sont fournis pour répondre suffisamment à leurs besoins. Suivons ces reportages de Sifamaguru sur place.
C'est depuis 1er octobre dernier que le premier groupe de sinistrés est arrivé sur le site de la paroisse de Kanyarutinya. Ces personnes sont venues du site de Bujari, Kanyarutinya, Kaembe et de Kayanja, indiquent les responsables en charge de la réponse humanitaire liée à l'éruption volcanique du 22 mai dernier. D'après les témoignages des sinistrés, cette réinstallation a tant soit peu soulagé leur calvaire, bien que les besoins restent encore nombreux. D'autres mères de famille ont apprécié les conditions d'accueil dans ce site, notamment l'accès à l'eau potable, mais beaucoup reste à faire selon elles. Nous sommes venus depuis dimanche. Nous avons reçu des poissons salés, de la farine, 25 kg par famille, 4 assiettes, un bidon d'huile et un pagne et du sel. J'ai 7 enfants et mon mari et moi, ça fait 9 personnes. Toujours dans ce site, nous avons remarqué un élan de résilience qui naît déjà chez nombreux sinistrés. Ces derniers tentent d'initier des petites activités économiques pour nouer le bout du mois et répondre à d'autres besoins. Notez que ce transfert des sinistrés a également permis de libérer déjà quelques écoles qui étaient occupées par ces derniers. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, flambée des prix de denrées alimentaires dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombé. Le maire de cette ville n'est pas resté insensible. Il a organisé mercredi dernier une grande rencontre regroupant les services de l'économie, les membres du conseil urbain de sécurité ainsi que les vendeurs. Cela afin de dresser la liste des prix de tous les produits de première nécessité qui doit être appliqué par tout le monde dès lundi prochain. Cosmos Mbo Wimba rassure que d'ici la semaine prochaine, ces prix seront revus à la baisse à Inongo. On l'écoute au micro de Irène Mboma.
La flambée de prix des denrées alimentaires à Inongo a monté au créneau. Et je ne me suis pas laissé faire. J'ai tenu hier une rencontre regroupant les services de l'économie, les services en la matière, les membres du conseil de sécurité de la ville et tous les vendeurs du marché central du port Nkolenzoba ainsi que des marchés périphériques. Et nous avons trouvé un compromis. Nous avons arrêté une liste de prix que nous devons fixer et qui doit être suivi par ces vendeurs qui en étaient très contents de leur part, mais ils m'ont demandé de les raccorder parce que moi j'allais déjà commencer depuis hier, ils m'ont demandé de terminer les stocks d'ici le week-end et à partir de lundi, la mairie va faire son travail. Et je vous rassure que d'ici la semaine prochaine, nous allons taper dur et les prix des denrées alimentaires doivent obligatoirement baisser à Inongo.
Notez que l'autorité urbaine d'Inongo a été interpellée la semaine dernière par le président de l'Assemblée provinciale du Maïndombé, Léonard Makombo, au sujet de cette hausse des prix des denrées alimentaires à Inongo. Dans la province de la Tchopo, pendant ces temps, les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que la crème intellectuelle, sont appelés à s'approprier les différentes résolutions issues des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire pour les débuts de leur mise en œuvre, du moins pour celles qui relèvent de leurs compétences. Cet appel leur a été lancé hier jeudi par la coordination provinciale des états généraux de l'ESU. C'était au cours d'un point de presse consacré à la restitution de ces assises organisées à Lubumbashi du 10 au 14 septembre dernier. Le point avec Jacques Munkonkole.
Ce point de presse marque le démarrage d'une série de sensibilisations que la coordination provinciale des états généraux de l'ESU entend organiser pour la mise en œuvre des résolutions de ces assises. Pour le professeur Grison Kakumbi, membre du comité de cette infrastructure, il revient à chacun de jouer sa partition.
Il revient au gouvernement de voir en termes de priorité ce qui doit être fait à court, à moyen et à long terme. Et pour ce qui revient au ministre, il est déjà clair que le ministre a déjà démarré avec beaucoup d'élégance, comme il a promis.
S'agissant par exemple du système LMD, les résolutions ont fixé leur réalisation en trois phases, à savoir la phase préparatoire, celle de démarrage ainsi que de consolidation. Pour les recteurs de l'université de Kisangani, le professeur Benoît Deda, la réflexion déjà entamée va se concrétiser.
Nous allons profiter de cette expérience pour commencer la réflexion concrète maintenant pour les facultés qui ont déjà des embauches, même des programmes qu'ils avaient élaborés. Mais maintenant, on va les faire suivant les critères exigés.
Signalons que ce système d'enseignement est déjà d'application dans quelques départements de la faculté des sciences de l'UNUKIS ainsi que de l'ISP Kisangani. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promulgué ce vendredi 8 octobre l'abolition de la peine de mort dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous écrivons à nouveau une page d'histoire. Au bout de 20 ans, nous tenons la promesse que nous nous étions faite en tant que nation, a déclaré le chef de l'État lors de la cérémonie de signature. Et puis, la France restituera fin octobre au Bénin 26 œuvres d'art pillées au palais d'Abomey au 19e siècle, comme elle s'y était engagée en 2018, a annoncé ce vendredi le président français Emmanuel Macron.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Madame la ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, qui a séjourné à Boutembo pendant 24 heures, où elle a annoncé une augmentation de l'enveloppe de paye des prestations sociales. Elle appelle aussi toutes les entreprises privées à affiler leurs employés à la Caisse nationale de sécurité sociale en vue de leur garantir une retraite aisée. La ministre Claudine Doucy Kembe s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Madame la ministre Claudine Doucy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel a été l'objet de votre mission à Boutembo?
Nous sommes venus, c'est sur instruction du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a recommandé à chaque membre du gouvernement de pouvoir accompagner nos populations qui sont dans les provinces aux états de siège. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de payer les prestations sociales, mais également d'appuyer la population locale et les personnes vieilles, ainsi que leurs familles, les retraités, en ce qui concerne quelques outils, par exemple des rentrées scolaires pour les enfants, et il y a également quelques colis cadeaux qu'on leur donne, hein, des vivres et non-vivres pour pouvoir aussi soulager tant soit peu leurs difficultés.
Pour ce qui concerne les retraités, il y aurait eu une augmentation faite dans leur paye. Qu'est-ce qui a motivé cette hausse ou cette augmentation?
On a juste demandé à ce que soit revue l'enveloppe des prestations sociales. Parce que, en tant que responsable du secteur, j'avais estimé que les sommes étaient très modiques et que la caisse était quand même à mesure d'augmenter un peu le montant. Et cela, ça va toujours dans le cadre du social de la population. Comme vous le savez, ce sont des montants qui diffèrent selon que l'on a cotisé pendant autant d'années. Et donc, tout le monde ne peut pas avoir le même montant. Tous sont concernés par l'augmentation. L'augmentation est effective d'ailleurs. Nous l'avons lancée ici et apporté cette bonne nouvelle et dire que désormais, il y a une différence par rapport à l'enveloppe antérieure.
Comme dans la fonction publique d'ailleurs, le paiement est toujours en franc congolais, qui est la monnaie nationale. Mais il s'est fait qu'avec la hausse du taux de dollar, quelquefois on se retrouve avec peu d'argent. Comment comptez-vous répondre à cette préoccupation?
Dans un premier temps, je vais d'abord vous rappeler que si vous observez depuis l'entrée du gouvernement en place, le gouvernement de Warrior, vous allez remarquer qu'il y a une certaine stabilité. Donc aujourd'hui, je n'aimerais pas moi rentrer dans les débats pour me référer à une monnaie étrangère par rapport à ce que nous faisons en RD. Bien qu'il y a cette dépendance internationale, bien qu'on ne peut pas vivre en vase clos, mais nous nous concentrons sur la monnaie locale. Et tous les paiements sont faits en monnaie locale. Et donc, les augmentations opérées les sont en monnaie locale. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas de regarder vers le taux, mais de regarder la volonté, la détermination du gouvernement de pouvoir répondre aux besoins sociaux de la population.
La ville de Boutembo exploite plus les secteurs privés et comme d'autres villes dans le pays, la plupart des employeurs n'affilient pas leurs travailleurs, c'est notamment de la SNCS. Comment comptez-vous relever ces défis?
Bon, comme vous le savez, notre système ici en RDC, le système de sécurité sociale, il est déclaratif. C'est-à-dire que les entreprises doivent venir déclarer pour leurs travailleurs et payer pour leurs travailleurs. Ça, c'est la première étape. Mais à part la déclaration, il y a également les contrôles qui doivent être opérés également par les différents services de notre secteur. En ce qui concerne les employeurs, nous ne pouvons que les encourager parce que quand vous regardez le conseil d'administration de la caisse, il y a les représentants des employeurs, il y a les représentants des travailleurs, il y a également le gouvernement. Donc nous sommes partie prenante, nous sommes une tripartite. Alors, c'est à eux de faire leur part de choses, c'est-à-dire venir effectivement avec des déclarations véridiques. Les syndicats des travailleurs aussi peuvent nous y aider en essayant d'échanger avec les responsables.
Avant de terminer, vous êtes ministre des Travail et Prévoyance sociale. Il y a cependant cette question du chômage qui gangrène la société, particulièrement la jeunesse de notre pays. Comment comptez-vous résorber cette question?
C'est vrai, je suis ministre de l'Emploi, mais le chômage, il doit être vu de façon globale. C'est-à-dire, le ministère de l'Emploi est là pour réguler le monde de l'emploi. Donc, il faut d'abord créer les emplois. Pour créer les emplois, c'est un accompagnement avec tous les autres secteurs, l'industrie, le commerce. Et donc, cette question-là, chaque ministre sectoriel s'y implique pour pouvoir réfléchir et envisager comment aller vers une croissance économique qui favorise la création d'emplois.
Et par rapport à ça, il y a certaines initiatives privées qui se plaignent quelquefois d'être contraintes par notamment des taxations et ça ne leur permet pas d'évoluer et de créer de l'emploi, donc suppléer à cette tâche du gouvernement.
Puisque vous en parlez, nous sommes en train d'envisager des mécanismes pour voir de quelle manière encourager la création des entreprises en RDC, et particulièrement pour la jeunesse, puisque vous venez d'en parler. Il y a des conditions, par exemple, de taxes sur lesquelles on peut jouer, essayer d'alléger, ainsi de suite. Mais tout cela est encore en train d'être travaillé au niveau des secteurs concernés.
Madame la ministre Claudine Doucy, merci.
Je vous en prie, monsieur le journaliste.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre particulière attention.